Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour. Aujourd'hui dans Gymnastique sonore, on retrouve le collectif Inouï, issu du CréaDoc, un master d'écriture et réalisation documentaire.
Une émission de création et documentaire sonore par les étudiants du CréaDoc d'avant et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on va parler concret. Le béton, les machines, les bâtiments et infrastructures qui marquent un environnement visuel, olfactif ou sonore, qui attaquent un écosystème, qui changent une topographie. Je vais vous donner à écouter des créations sonores dans lesquelles une construction humaine vient s'ajouter au monde existant et créer une rupture. On y lutte contre, on vit avec, elle marque un repère dans notre champ de vision et dans notre espace de vie. Des monstres gigantesques qui se sont installés là ont fait du lieu leur territoire et y luttent parfois durement avec les forces récalcitrantes, qu'elles soient naturelles ou humaines, qui les entourent. Une ligne à grande vitesse contre laquelle on se bat. Un immeuble construit sur une dune qui menace de s'effondrer, et des bunkers sur la plage, un centre d'enfouissement de déchets qui devient une colline boisée. Trois situations, trois approches différentes qui permettent de saisir plusieurs facettes de ce sujet. Par ordre d'apparition, vous entendrez La balafre des gens heureux de Pauline Lacote, À la dérive de Fanny Dujardin, et Derrière la colline de Émilie Moreau. Bonne écoute.
Inouï. LGV. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La balafre des gens heureux, un documentaire de Pauline Lacote.
Alors oui, effectivement, dans les années 80, c'était un projet, on entendait parler que le TGV allait passer, mais nous, on n'avait pas imaginé qu'on allait construire une nouvelle voie. On pensait que c'était l'ancienne voie qui allait être aménagée. Et puis, en septembre 90, mercredi, en ouvrant le journal, on apprend que une nouvelle ligne allait être construite et passer à Linard. Et donc, on voyait bien qu'il allait passer à côté, juste sur le terrain qu'on venait d'acheter, et on avait commencé à construire. Et effectivement, ça s'est vérifié quelques années plus tard. Voilà, donc...
Ça vous fait quoi, vous, quand vous voyez cette grande ligne en béton, là, au milieu de...
L'autre jour, je cherchais des slogans. Il y en a un qui m'est revenu en tête, qu'on voulait mettre. C'était la balafre des gens heureux. Ah, c'est tout à fait ça, là. On était tranquille dans notre coin, dans notre village, là, pas loin d'Angoulême, un peu à la campagne, un peu à la ville. Et là...
De son jardin, Marcel Mazot aperçoit ce gigantesque lacet bétonné. C'est là, à quelques kilomètres de son potager.
On va parler de la ligne à grande vitesse. Et donc, c'est en 1990, quand j'ai ouvert mon journal, comme beaucoup, de Tours à Bordeaux, un TGV à Linard. Impossible. Tout le monde tombait à la renverse. Alors, il y avait plusieurs tracés, mais... Les autres tracés, ce n'était pas possible, il y avait des carrières, etc. Trop compliqué. Enfin, c'est resté pour Linard. On a passé des années, c'est-à-dire 20 ans, 21 ans même. C'est en 2011 que les travaux ont démarré. Et pendant ces 20 ans, eh bien, on a vu le tracé qui était imaginable. On a commencé par voir des géomètres, des petits piquets, des bleus, des rouges, de toutes les couleurs. Alors, tout le monde se demandait un peu au début, il passe là, il passe pas là. Donc, malgré les manifestations qui ont eu lieu de droite et de gauche, les réunions de ci et de là, bon, ben, il n'y avait plus rien à faire, quoi. Ils ont déclaré dès qu'il était public, c'est terminé. On met ça dans sa poche et son mouchoir par-dessus.
Et comment se sont déroulées ces années de flou? Ai-je demandé à Gérard Andrieux, l'adjoint au maire de Linard.
Rien. Pour nous, c'était très négatif parce que, que faire? On n'avait rien à faire. On savait que la ligne se ferait, puisqu'elle avait été déclarée d'utilité publique. Mais ça pouvait durer 30 ans, donc on ne savait pas. Ce qu'on savait, c'est que le terrain était mobilisé. Il y avait des maisons étaient écrasées, donc il y avait déjà des acquisitions quand même pendant cette période-là. Mais en dehors de ça, les gens ne voyaient pas de changement. Donc c'était le point mort. On attendait que ça se passe, ouais, c'est ça.
Et comment on gère ça quand c'est une décision d'État? Vous, en tant que municipalité, vous n'avez pas votre mot à dire?
Non. C'est une décision d'État, mais il y a quand même une enquête publique avant. L'enquête publique, elle se fait sur l'ensemble de la construction de la ligne, dans toutes les communes. C'est l'élément essentiel.
Oui, il y a une enquête publique, mais il n'empêche que la moitié, bah, justement, dans ce village-là, tout le monde était opposé.
Oui, mais l'enquête publique, elle va avoir une décision qui va porter sur l'ensemble du projet. Mm-hmm. Donc, elle va peser le pour et le contre. On va dire, le projet, il est utile, il est donc acceptable pour la société. Seulement, ça n'implique pas pour beaucoup, il va être acceptable sur le trajet. Pour d'autres, il va être moins. Mais globalement, après, pour la décision finale, ben, on rentre dans le cadre. Pour les moins, pratiquement, il n'y a aucune chance d'être retenu. Alors, il est évident que par rapport à la population, même les élus, et en particulier ceux des départements, ont une importance. Pour moi, la ligne, elle a été faite aujourd'hui comme ça, parce que les élus locaux, les élus départementaux, locaux, de la ville d'Angoulême, a décidé que ce serait comme ça. Donc, pour les riverains, pour la commune qui va être directement ciblée, touchée, son pouvoir est d'autant plus limité. Sauf, évidemment, si la commune a un personnage qui a un pouvoir politique ou un pouvoir énorme vis-à-vis de l'État, voire du président de la République ou du Premier ministre. C'est un rapport de force. La démocratie a des limites.
Et il ne voulait jamais vous donner la parole?
Ah, moi, on ne m'a pas donné la parole. Enfin, bon. Ça s'est passé un petit peu pour tout le monde, comme ça. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est. Je saute un peu du coq à l'âne, mais. Ce qu'on peut dire un peu, c'est. Comment ça va se passer maintenant, l'entretien de tout ce qu'ils nous ont laissé? Ça sort des compétences des riverains. Ça va être à nos élus de trancher tout ça, bien sûr. On en entend parler, parce que ça fait énormément de travail en plus. Et c'est, comment dire, c'est le désastre, bon, c'est un gros mot peut-être, c'est catastrophique pour nous. Auparavant, on avait nos petites habitudes, bien sûr, les petites promenades dans nos petits chemins, etc. Ils nous ont fait des chemins nouveaux, mais c'est pas du tout la même chose. Notre paysage est détérioré. C'est dommage. C'est comme ça.
On ne peut pas empêcher, en construisant ce type de ligne, qui est sur environ 100-150 mètres de large, voire un peu plus dans certains endroits, fait quand même une rupture dans le paysage. C'est une ligne, c'est une cassure en ligne droite, une fissure énorme dans l'ensemble du paysage. On casse. quand on construisait des lignes il y a 50 ou 60 ans ou autre, les lignes ferroviaires, voire les routes, suivaient, je dirais, le paysage. Elles s'inséraient dans le paysage. Là, on va tout droit, on coupe les collines, on remblait les vallées et on fait une espèce de mur. Alors évidemment, ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. L'intérêt, c'est de l'intégrer et de pouvoir laisser vivre la faune et la flore. On rétablit. Souvent, on ne peut pas rétablir au même endroit, donc on dit, ben, on va vous déplacer, on va vous faire des investissements ailleurs. D'empêche que pour moi, il y a quand même les gens qui vivent sur le site. Et ces gens-là, eux, ils voient leur environnement qui change et qui a changé. Les animaux, on a beau créer des passages, des trucs, mais bon, c'est quand même plus l'espace naturel qu'il y avait. Parce que là, on ferme, on met des grillages partout, la ligne n'est pas accessible. Hein, on est dans... c'est un mur barbelé. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une violation des territoires, des gens locaux. C'est ce côté-là qui est désagréable de ces grands axes qui dénaturent, qui passent et qui s'imposent et sur lesquels les gens n'ont aucun avantage, ni aucun profit, ni en dehors de voir passer un truc, ils n'auront même pas le temps de voir passer.
Avant, on avait tout autre paysage, une belle vallée. Là. Maintenant, il y a une tranchée avec du béton et des rails, des poteaux, des trains qui vont passer à toute allure. Là. C'est moche.
Dans son livre « Walden ou la vie dans les bois », Henry David Thoreau questionne : pourquoi vivre avec cette hâte et ce gaspillage de vie ? Et si l'on ne construit pas de chemin de fer, comment attendrons-nous le ciel en temps ? Avez-vous jamais pensé à ce que sont ces dormants qui supportent le chemin de fer ? Thoreau ajoute : ce n'est pas nous qui roulons en chemin de fer, c'est lui qui roule sur nous. Ce train à grande vitesse, il roule sur les souvenirs de Francis Calvet et Geneviève Geoffroy.
Bon, vers les années 2008-2009, on sentait que c'était cuit, quoi, qu'on allait être exproprié. Bon, ça n'a pas tardé, ça s'est fait dans la douleur, mais bon. Voilà. Il y a toujours l'antenne télé. Mais... des petits signes de vie comme ça qui restent par-ci par-là. Autrement, ils n'ont pas changé grand-chose. Quoi. Ils l'ont utilisé cette maison et là, elle est en vente. Alors je crois, ce qu'ils disaient à la mairie, 180 000 euros.
Et alors qu'à la base, ça vaut combien ? Sans la ligne, à proximité ?
Ah ben beaucoup plus quand même.
Ouais.
Voilà. Là, ils ont diminué quasi plus de 50%, quoi.
Et comment s'est passée l'évaluation de la maison au moment de la vente ?
Donc, avec les domaines sont venus évaluer, mais ils ne vous disent pas la somme. Donc, et c'est après que Causea vous propose une somme. Donc après, bon, il y a tout un jeu, on refuse la somme, on demande beaucoup plus. On a fait venir un expert judiciaire qui a évalué la maison. Alors j'ai vu comment il faisait. En fait, il évalue et puis il compare à tout ce qui a été vendu dans le secteur. Mais les choses sont un peu faussées parce que à ce moment-là, les gens savaient qu'il y avait le TGV, donc les ventes avaient commencé à baisser. Bien sûr, il nous a trouvé un prix de vente inférieur à celui de Causer. Si on allait au tribunal, le tribunal faisait appel à des experts judiciaires. bon, il n'y en a pas 36 000 en Charente, on était obligé d'accepter les propositions. Quoi. Ça a été assez dur. Voilà les restes. Les restes d'une vie.
Il y a très très longtemps, mon mari connaissait un chauffeur de train qui lui avait dit, tu sais, quand on commence à en parler, c'est déjà fait, il passera. Il n'avait pas menti. Voilà. Et alors on était quand même vraiment déçus. Jusqu'au dernier moment, on a espéré qu'il ne passerait pas dans notre propriété. Mais c'était là. On a reçu des papiers. D'abord pour avoir le droit de faire des sondages, pour savoir comment il fallait creuser, comment construire. Et puis... Ça s'est fait sans qu'on s'en aperçoive tout compte fait. Mais on savait qu'on prenait tout le terrain. On n'a pas été payé. On a reçu la grandeur en terre cultivable.
C'était un troc.
Voilà, c'était un troc. Et est-ce que j'ai eu mon content, je ne sais pas exactement.
Vous êtes là depuis combien de temps?
Ben, 75 ans. Je n'ai pas quitté le pays. C'est vrai que ça remue plein de souvenirs et puis c'était le lieu où tout le monde venait l'été, se rassembler, se baigner, s'amuser, tous les jeunes du pays. Voilà. Autrefois, on venait faire manger les vaches là, aussi. Et oui, je partais pas en vacances, je venais garder les vaches. Mais ça fait rien avec les copains et les copines. C'était les vacances. Voilà. Enfin, bon. Ouais. C'est comme ça. C'est le modernisme. Il n'y a pas eu trop de mouvements, ici. On ne les a pas fait dévier, on les a pas... Ils ont suivi leur trajectoire. On est impuissants. Voilà. C'est dommage.
Oui. On est au pied du mur. Ils ne nous disent rien. Ou alors on sait ça par le blablabla ou un petit article dans le journal. Ça y est, c'est parti, quoi. On ne peut rien faire. Mais ils nous prennent pour des rien, quoi.
Ce qui m'a le plus choqué au niveau social, c'est le côté que... C'est-à-dire qu'en gros, ils disent « Ouais, mais ils ont décidé ça, c'est comme ça. » Ça, c'est le plus répandu. Ils ont décidé, donc il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, on est avec vous, on va se battre, on va défiler, on va... toutes les manifestations qu'on en a fait. » Les gens venaient. Mais beaucoup, lorsqu'ils venaient, ils me disaient « Ça ne sert à rien ce que tu fais. » À l'arrivée, ils ont décidé. Les gens sont... énormément de gens sont très fatalistes. Puis il y a les gens quand même qui viennent vous dire « C'est bien. Ça ne sert à rien, mais c'est bien. » Bon, ça réconforte. Ça réconforte. C'est ce que le côté positif que personnellement j'ai vu dans ce genre d'action. Quoi.
À Champagne-Vigny, commune traversée par la LGV, le maire Gérard Saumon est toujours en lutte. Et il n'est pas le seul.
Alors, notre combat, il n'est pas vain. Il est compliqué. Il est même, je dirais, aujourd'hui unique, puisque jusqu'à présent, aucune action de ce type n'avait été entreprise. Et c'est bien une action qu'on entreprend contre l'État pour qu'il reconnaisse que, par le passage de la ligne, rien n'a été prévu pour indemniser les communes traversées. Toutes les communes traversées n'ont quand même pas le même impact. Quand on regarde une commune suburbaine comme Linars, la traversée de la LGV, cette ligne, n'a pas le même impact que dans la nature de Champagne-Vigny. Nous avons très peu d'habitations touchées, nous. nous sommes touchés par la perte du foncier. C'est-à-dire que, par exemple, sur ma commune, j'ai 30 hectares qui disparaissent sous la ligne. 30 hectares de terre qui, demain, ne produiront plus de taxes foncières non bâties pour la commune, puisque ce ne seront plus des champs exploités. Mais quand je pense aux communes comme autour de Bordeaux, qui vont avoir des écrans pour protéger les immeubles, qui ont eu des maisons qui ont été démolies, qui ont eu des plans locaux d'urbanisme qui ont été gelés pendant 3 ans, où ils avaient prévu, par exemple, de construire des maisons, et tous ces terrains qui représentaient une valeur marchande future, des nouveaux habitants, de nouvelles maisons, donc de nouveaux impôts, etc., tout ça s'est perdu. Donc, des petites communes très peu impactées n'ont, par exemple, que 2 ou 3 000 euros. 2 000 euros de charges supplémentaires, d'autres 5 000. Mais des communes comme Linard, c'est du 40, du 50, du 60 000 euros l'année. Minimum de charges supplémentaires. Donc, quand nous avons constaté que cette ligne se ferait, c'est-à-dire que c'était approuvé par l'État, par l'Assemblée, mais nous nous sommes dit maintenant c'est fait, à nous, commune traversée, de nous réunir face à cette grande entreprise qu'est Vinci. Et donc nous sommes dit, nous, petite commune de 200 habitants, on en a même de moins de 200 habitants, que représentons-nous ? Mais nous allons nous unir. Donc on a constitué, dès 2004, l'Association de défense des intérêts du Sud Charente. Et puis nous avons, à la suite de cela, constaté que nos problèmes n'étaient pas les seuls et que ceux de la région Bretagne étaient identiques aux nôtres. Comme il y a 57 communes en Bretagne, eh bien on a constitué une association qu'on appelle la Coordination interrégionale Sud-Europe-Atlantique et Bretagne-Pays de Loire. Et elle est faite de 185 communes. On parle maintenant d'une seule voix, de Rennes au Mans et de Tours à Bordeaux.
C'était La Balafre des gens heureux, un documentaire de Pauline Lacote. Un grand merci à Francis Calvé, Marcel Mazot, Gérard Andrieux, Geneviève Geoffroy et Gérard Saumon pour leur participation. Merci à Jean-Philippe Navarre, Anaïs Samon et tous les autres gugus du Créadoc pour leurs conseils. Créadoc, Angoulême, le 15 décembre 2015.
Moi, je suis un enraciné ici. Mes parents habitaient là quand je suis né. Et j'ai vu tout ça, évidemment, se modifier. Mais ça a commencé, on avait une vingtaine d'années à bouger comme ça. Parce que sinon, avant, c'était... Quand on était jeune, on avait des mobilettes. On sortait à mobilettes. Donc, moi, j'avais des copains là-bas. Donc, c'est un endroit que je connaissais très bien. 4, il y a au moins 4 et derrière 5 exploitations agricoles là qui ont disparu. Les terres, les bâtiments. Là, je voyais l'hôpital, là, quand il y avait le feu d'artifice, puisque le feu d'artifice donc, est tiré sur le viaduc. Et nous, on montait là-haut. Moi, je voyais tout ce qui était aérien du feu d'artifice de Laval. Et ça, je ne voyais plus. Les matchs au stade, on voyait ça. Je voyais les projecteurs. Ce qu'il y a eu au début... Parce qu'évidemment, ça sentait mauvais. Et alors, ils ont parfumé.
Pour Mezrol.
Celle de ce côté-là,
ça a toujours été vallonné. Mezrol. De ce côté-ci ou de l'autre côté où j'habite, ça fait pareil. C'est une butte.
On faisait du. Quand il y avait de la neige, on faisait de la luge dans les buttes. On s'en rappelle.
Ça y ressemblait un petit peu au paysage, mais maintenant, y a la butte a grandi un petit peu, quoi. On est le paysage a été beau pendant une dizaine d'années, puis après, c'est revenu beau.
Des fois, il y a des pigeons, des fois, il y a des biches, des fois, il y a du lièvre, des fois, il y a...
Un peu de sanglier.
Voilà.
Mmh.
Elle est née. Elle est née entre les deux. Entre la main et la terre. Entre la main, la terre et les bras de fer.
En face et sur la partie marron, on dirait qu'ils ont ratissé tout le sol parce qu'on voit des espèces de sillons comme des traces de râteaux. De manière verticale. Elle est super plate. Ça fait comme un espèce de dôme avec un plateau sur le dessus. Elle est très pentue. Sur la partie à droite, il y a des espèces de tuyaux qui tombent vers le bas. C'est assez impressionnant, en fait, d'avoir cette sorte de montagne noire au pied de la route qui surplombe tout. D'où on est, en fait, elle a comme deux plateaux. Il y a une petite montée avec un bras mécanique qu'on voit un peu derrière. Ensuite, il y a un petit plateau plat. Et ensuite, il y a un bon dénivelé qui arrive vraiment au sommet. Et c'est intriguant parce que les tuyaux qui tombent vers le bas, ça donne envie un peu de les escalader. Il y a de plus en plus d'oiseaux. On a encore l'impression d'un trou derrière. D'ici, l'odeur, elle est assez forte. Ça sent une odeur de plastique brûlé. Une odeur de décharge, mais quand même beaucoup une odeur de chaud. Et à la fois, ça a une odeur un peu de plastique, et en même temps, plus on sent, plus on a l'impression que c'est presque un animal. Et d'ailleurs, on ressent une espèce de chaleur un peu moite.
Ben, ça dépend de quel côté on est, où on se situe. Sur certains côtés, on voit que la montagne, quand on est au rond-point des chênes secs, on voit comme une bâche verte. Mais on voit qu'on distingue sous la grosse bâche verte, sous la colline, on distingue des espèces de cubes ou de parallélépipèdes, là, comme des gros Legos qui sont entassés. Et si on prend la petite route le long qui se dirige vers la déchetterie, là on voit sur la droite, on voit des tuyaux, enfin on voit une espèce d'usine. Enfin, on en voit deux d'ailleurs. Donc il y a cette partie-là, et puis un petit peu à côté, il y a une grosse chaudière. Bon, on se retrouve avec plusieurs collines maintenant. C'est pas du paysage très ancien. Déjà, c'est bossu, donc on voit bien que c'est des bosses assez régulières, comme des petites montagnes, enfin des collines, mais la végétation, enfin, c'est pas des haies pareilles que les très vieilles haies qui ont des arbres de auget. Donc les arbres sont plutôt bien alignés, donc c'est pas la même, les mêmes haies, pas la même campagne qu'à côté, qu'aux alentours.
On voit un hangar à droite. Par contre, ce qu'on voit au milieu, là, l'espèce de silo tour, là, il y a le château d'eau et juste à côté, il y a des tours là. Ça, j'imagine que c'est ça le four qui brûle les ordures. Et c'est ça qui envoie la chaleur à l'aval. Par contre, les gros tuyaux qui fait le coude là et l'autre cheminée, ça, c'est la déshydratation des fourrages. C'est la vapeur d'eau qui sort dans ce gros tuyau là. Et donc sinon, on voit tous les camions qui arrivent là, et ils sont tous à la queue leu-leu, hein, c'est impressionnant. Hein. Le déchet ultime, voilà, c'est ça. Donc ça, déchet ménager, là-bas. Mais ça, ce que vous voyez en vert bien cru, là, ça c'est une montagne de béton. C'est-à-dire qu'on a vu les étages monter. Et ça, ça travaille jour et nuit, là, hein, cette partie-là. C'est enfoui dans du béton, donc stabilisé pour 300 ans.
les vapeurs d'eau dessinent des formes, les terres creusées des rides et s'érigent la créature. L'expiration des camions, le vol des mouettes, les eaux qui coulent, les terres que l'on nettoie, le verre qu'on casse, les bras des ruisseaux, les eaux qui coulent dans les ordures, dans les tuyaux, les eaux souillées, les eaux noires, les odeurs qui tourbillonnent.
Le secrétaire général déclare que le compte-rendu de la CSS est approuvé. Monsieur Ross précise que 26 000 tonnes de déchets représentent environ un trafic de 1 000 camions. Au niveau des zones humides, Monsieur Letourneau explique que des espèces intéressantes arrivent. Il précise à Monsieur Racine que l'espèce salamandre est bien présente et très localisée. Monsieur Ross confirme que le lixivia est odorant. La bâche flottante est posée sur le bassin avec une membrane épaisse qui permet de suivre le niveau des eaux, ce qui empêche les phénomènes gazeux. Monsieur Racine ajoute que d'une façon générale, les chauves-souris sont moins présentes compte tenu de la disparition des insectes et des nichoirs. Monsieur Letourneau confirme qu'il n'y a pas de vieux boisements sur le site permettant d'accueillir cette espèce. Un déchet radioactif a été traité par erreur au sein du site. Le secrétaire général ajoute que les mâches fers circulent davantage par le ferroutage que par la route. Concernant la surveillance environnementale des lichens, M. Do souhaite avoir des précisions concernant l'emplacement des mesures du suivi des lichens orientées nord-sud, alors que les vents dominants sont plutôt orientés est-ouest. Le laboratoire a positionné les éléments de mesure en tenant compte que des vents faibles et fréquents, plus révélateurs que les vents forts, qui sont plus dispersants et moins impactants. Monsieur Racine indique que les vents dominants ont basculé pour se tourner plutôt de type nord-nord-est. Les déchets dangereux des rubriques 27XX en attente de stabilisation ou de stockage d'une quantité maximum de 1929 tonnes et ceux en cours de stabilisation avant enfouissement. Le statut ces vaisseaux est déterminé sur la base des rubriques 4XXX.
Crissement d'un plastique, des voix d'experts, un souffle de travailleuse, une corneille salamandre, grincement d'une machine, d'un bras articulé. Ce sont nos monstres. La plupart du temps invisibles, ils surgissent ici. Elle les recueille. et tandis qu'elle s'affaire, elle prépare son lit. Elle s'emplit de tout ce qui devient rien, qui fut et devint vain. Et tandis qu'il s'affaire à lui faire des veines de métal noir, pour que s'écoulent ses liquides et ses gaz, elle digère, transforme, creuse, brûle et grandit. Elle courbe le dos, son échine plate et longue dorsales obliques. Elle se hérisse de végétaux. Elle se tapit lentement. Il paraît qu'elle se tasse. C'était Derrière la colline de Émilie Moreau. Un grand merci à Hervé, Philippe et Emma, ainsi qu'à Hugo Philippon, Fanny Dujardin et à l'Institut Magilis, et à tous mes camarades du Créadoc.
Je repasse toujours par le signal. Hier, par exemple, c'était la pluie. Je suis quand même allée me promener. J'ai pris le chemin de la forêt. Mais quand j'arrive au front de mer, il y a le signal. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours là. Peut-être parce que c'est au bout d'un effort. Quand je suis dans les terres, je ne suis pas au bout. C'est difficile, hein ? Pourquoi je reviens toujours au signal ? Alors que... Ben que c'est fini, quoi.
À la dérive de Fanny Dujardin.
Nous sommes sous le lac sud et nous arrivons devant cet immeuble qu'on appelle le Signal, qui fait 40 mètres de long. Il fait 10 mètres de large, 4 étages, dont 78 copropriétaires ont été expulsés à cause de l'érosion marine.
Le Signal, il a été décidé par l'État, et uniquement par l'État. Après la guerre, tu sais, il fallait reconstruire la France pour relancer son économie. Et en 1950, avait été créé le ministère de la Reconstruction. Donc, c'est-à-dire construire des bâtiments neufs pour attirer les gens qui achètent des résidences secondaires, qui louent, qui viennent passer leurs vacances, quoi. Seulement à la dernière minute, les promoteurs ont décidé que pour que ce soit plus attractif, ils allaient plutôt mettre le programme immobilier directement sur la dune et que le boulevard passerait derrière.
C'était la dune là-bas. Donc nous avons perdu au moins plus de 200 mètres de côte depuis 1965. C'est considérable. Plus loin au sud, vous avez peut-être vu les bunkers qui sont immergés. Eh bien, ils étaient construits sur la dune en 1943. Les bunkers, eux, on ne les bouge pas, hein. Alors ça fait justement un bon repère pour calculer le trait de côte par rapport au sommet de la dune ou du front de mer.
C'est en 2010 qu'il y a eu la grosse tempête, que les gens ont été évacués d'urgence et que finalement on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas retourner dans leur logement, ils n'ont même pas pu récupérer leurs affaires. Ce qui va arriver au signal, c'est pas tellement qu'il va se faire avaler par l'eau, c'est que la dune sous lui va s'écrouler en fait. Pendant les prochaines tempêtes ou au fil des années de l'érosion, la dune va s'effondrer, le signal va s'effondrer avec lui, il va tomber dans l'océan, ça va être une catastrophe écologique.
Par moments, je me dis c'est peut-être comme un coquillage, puis c'est fini. Dans un coquillage, il y a des échos. Il y a des voix qui sont dedans. Moi, c'est mon écho à moi de personne qui n'a pas vécu de longtemps. Un coquillage, ça dit beaucoup de choses, non ? Moi, je les mange pas, les coquillages.
Je suis devant le signal, là. Il pleut. C'est marée haute. On est le 12 novembre. Et la mer est grisâtre. On entend les gouttes de pluie sur le parapluie. J'attends Yann et sa copine pour rentrer dans le bâtiment. Les barrières qui sont censées le protéger devant là sont de plus en plus écroulées. Ça va être facile de rentrer. Juste en bas du signal, il y a une sorte de bouche d'égout creusée dans la dune. Et par cette bouche, il y a une rivière d'eau qui sort, qui va se jeter directement dans la mer. Il y a des petits oiseaux gris, je sais pas comment ça s'appelle.
C'est apocalyptique. Hein. Ça semble neuf, mais c'est tout cassé. C'est pas les choses qui n'ont pas été volées, ce sont les livres. Un tabouret. Deux tabourets. Et voilà, c'est une déchetterie.
Moi, je trouve que c'était pire la première fois. Parce que t'avais vraiment l'impression que là, c'est apocalyptique. Mais avant c'était vraiment style, ils étaient partis, mais en une heure, faire des courses quoi. C'était hallucinant quoi, ça faisait peur quoi. T'avais carrément limite encore le chocolat chaud dans l'envol quoi.
T'étais déjà rentré quand il y avait des gens ?
Ah oui, j'ai même repeint un appartement. J'aurais pu lequel mais franchement, j'aurais 15 ans, 14 ans.
Oui, quand je voyais par exemple la mer qui approchait, j'aimais bien parce que j'avais l'impression d'être sur un bateau. Ça tangue pas, mais tu as l'impression d'avoir les vagues qui te viennent en plein, surtout en pleine tempête. Moi j'aimais ça. Oui, on est à la dérive, oui. C'est un peu le bout de la terre, hein. Parfois, je me dis c'est un peu révoltant, puis parfois, je me dis mais non, ça sert à rien, on est prêt à... On doit partir, bon ben, on faut pas, il faut pas s'attacher. Moi, je m'attache pas aux murs, je m'attache pas aux maisons. Enfin, on n'est pas grand-chose par rapport à l'océan, par rapport au sable, par rapport à la dune qui s'en va, ou au signal qui s'en va, ou aux maisons. On n'est rien, quoi, en fait.
Un appartement transversal, avec d'un côté une chambre qui donne sur le parking et de l'autre côté, dans le salon, une vue sur la mer. Des carreaux très propres sur le sol, jonchés de verre, des murs très blancs, un placard avec les portes ouvertes. La cuisine, il ne reste plus rien de ce qui composait une cuisine. Une porte posée contre un mur. Un gros annuaire par terre. Et un radiateur rouillé. Il reste des recettes de cuisine dans le tiroir. Tartare de langoustine, pommes et avocat. Et du lieu noir à la provençale. Encore des fourchettes, des torchons. Ici, c'est tout mouillé. Comme il pleut, la fenêtre est ouverte, il pleut à l'intérieur. Toujours les lambeaux de papier peint qui ressemblent à des grosses feuilles mortes qui sont en train d'achever de se décoller à cause de l'humidité.
Deux hommes, deux copains, deux frères peut-être. Ça a dû être pris ici en plus. Ça me dit rien. Celui de gauche peut-être.
Les mains sur les genoux, Béatrice était assise, le regard absolument vide. Mais si vide et si plein d'une mystérieuse absence que je compris aussitôt que je ne devais pas l'éveiller de ce sommeil-là. Les yeux ouverts sur le monde auquel je n'avais pas accès, Béatrice était partie. Page 154 d'un livre inconnu.
Les nuits étoilées au signal, ça c'était ce qu'il y avait le plus beau pour moi. Je ne fermais jamais les volets, enfin, je ne fermais jamais les rideaux la nuit, parce que j'aimais bien voir les étoiles, la lune si elle était là. J'ai disposé mon lit de sorte que je puisse voir les étoiles, ah oui. Et ça c'est, comment on pourrait dire, c'est beaucoup d'émotions. Encore plus fortes que si je suis sur un... Plus forte que les vagues, c'est le cosmos.
De quoi ?
Ben, qui se côté, mes collègues. Une bougie, des stérilbox, des canettes, des boîtes à chiens, des canettes.
Tu peux décrire le décor ?
Le décor ? Ah ben, j'aurai une table à repasser couverte de seringues utilisées, et des boîtes stérilbox. Les coupins, on a chauffé, c'est le bouchon. Et encore ma canette, et ça se trouve, c'est une de mes pompes. Quoi. Et là, par contre, c'était pas cassé. Quand je suis venu, ils avaient la clé. Et c'était nickel, hein, c'était nickel, c'était hyper propre. Bon, c'est bon, hein. On se casse.
Souvent, je me suis dit qu'il empêchait l'océan d'avancer plus loin. Donc, je me dis, les sous-laquettes devraient nous remercier. Quel signal. C'est vrai. Mais l'océan peut passer à droite, à gauche. Peu de temps après qu'on ait quitté le signal, il y a un bunker qui est tombé. On ne l'a pas vu tomber, mais dans la nuit, il est tombé. Comme tu dis, le sable ne pouvait plus le retenir. C'est comme ça. Il tombe à l'eau. C'est comme ça. Peut-être que Soulac retombera à l'eau, peut-être.
C'était À la dérive de Fanny Dujardin.
Regarde-moi, là, ça fuit. Vite, le volant. Faut mettre des grosses balles dedans. Mais quand même, faut pas.
Merci à Françoise Mongeau, Jean-Paul Lescorce, Lové Christophe, Yann Lagadec, Géraldine Moulet. Créadoc, Angoulême, le 9 décembre 2016. Gymnastique sonore, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez entendu le dernier épisode de Inouï, avec La balafre des gens heureux de Pauline Lacote, Derrière la colline de Émilie Moreau, À la dérive de Fanny Dujardin. Pour retrouver les archives des émissions ou les infos sur le collectif Inouï, rendez-vous sur canalb.fr. À la semaine prochaine.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.